Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir à tous, bienvenue par ici. Alors ce soir, j'ai donc encore 2-3 personnes en plus pour annoncer l'invité du soir, de la journée. Vous savez qui c'est déjà? Alors, hop, ça c'est juste un changement de perspective. Bonsoir monsieur Lambert, je viens vous chercher. Donc, je vous le dis, ce soir nous avons comme invité François-Michel Lambert, député écologique des partis. Coucou à tous. On va voir si la connexion est bonne cette fois-ci, parce que parfois ça bug.
Ah, ça, il était vachement bien coiffé. Ah,
quasiment aussi bien que moi. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour. Ben, ça va?
Ouais.
C'est une première pour moi. Instagram, hein, s'entend.
Oui, en plus, mais vous savez que depuis que vous avez annoncé le live sur Twitter, j'ai eu plein de followers en perspective du live, donc c'est cool, ça veut dire que vous avez quand même une communauté qui est active et qui suit ce que vous faites.
Attendez, je vais lancer un rappel. Hop.
Ouais. Super.
Si vous me donnez 2 secondes. Bon, bah vous êtes super bien coiffé. Hein. La triche.
Ouais, j'ai fait un brushing pour l'occasion.
C'est cool.
Je plaisante. Non, je suis pas allée chez le coiffeur, moi, en revanche. Je suis pas allée chez le coiffeur. Il y en a plein. Mais d'ailleurs, je suis allée faire un tour dans mon quartier et j'avais pas l'impression que les coiffeurs étaient pleins.
Moi, je suis pas sortie aujourd'hui. J'ai pris les bonnes habitudes de rester.
Ah non, on est bien confinés, hein, quand même.
Surtout, beaucoup de boulot, on a pris.
Bah oui, aujourd'hui, c'est une grande journée. J'aimerais bien qu'on en parle, justement. Je vous laisse finir votre tweet. Ou je ne sais quel post, Instagram ou Facebook. Mais effectivement, c'est le point qu'il faut qu'on aborde. C'est une grande journée. Et en plus, la décision du Conseil constitutionnel vient de tomber. Là.
Oui, j'ai entreaperçu. Je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près.
Non, j'ai juste vu la dépêche de l'AFP disant que l'intégralité des dispositions avait été validée, hormis celle concernant le traçage. Donc voilà.
Ben oui, c'est les recours que nous avions co-signés à un peu plus de 60 députés. C'était hier, parce que tout va très très vite. Et c'était les critiques que nous avions sur le cadre de ce projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. On avait bien raison dans l'hémicycle d'en parler très clairement et puis de demander l'avis des sages. Mais il peut y avoir des urgences, on ne le nie pas. Des décès trop. De toute façon, un mort, c'est toujours un de trop. Il y avait des nécessités d'action qu'on salue, mais il y avait aussi la nécessité d'un dialogue et de ne pas se tromper sur les réponses. Voilà, le Conseil constitutionnel a confirmé.
Super. Et du coup, c'était quoi la... Parce que j'ai cherché la saisine, je ne l'ai pas trouvée. Quelle était la saisine, en fait? Vous aviez... Il y avait quoi dans la saisine que vous avez co-signée? Vous l'avez co-signée avec quel groupe parlementaire, du coup?
C'était celle à l'initiative du Parti Socialiste.
D'accord.
Donc, c'est plutôt la gauche et un peu plus qui a signé cette saisine. Et elle portait totalement sur la question... Non, pas totalement. En partie, notamment, sur toute cette question des risques de dérive dus aux enregistrements de points particuliers. Dans le cadre, oui, il faut contenir l'épidémie, contenir la diffusion du Covid, mais attention à ce que ça ne soit pas au détriment de nos libertés, dans tous les sens de ce que veut dire le mot liberté, hein. Liberté de circuler, liberté de rencontre, liberté même d'opinion, mais aussi des risques sur nos propres situations médicales des uns et des autres. Donc voilà, c'est le risque d'un fichier global, ce sont les éléments. Alors je n'ai pas le détail de la décision du Conseil constitutionnel, donc je ne pourrais pas préciser les points qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais voilà à quoi sert un Parlement, hein. On est place du Palais Bourbon, hein.
Ouais, c'est sûr.
Donc je rappelle qu'en France, on est peut-être un peu moins habitué du fait d'une histoire d'hommes très puissants, Louis XIV, Napoléon, et dans une autre dimension, le général de Gaulle, mais surtout du fait d'une Ve République qui a dérivé dans le temps. La Ve République d'aujourd'hui n'est pas celle que le général de Gaulle avait instaurée, hein. C'est une République de plus en plus centralisée sur l'Élysée, quel que soit le titulaire, hein, centralisé sur l'Élysée et sur quelques hommes, parfois femmes, autour du locataire de l'Élysée, du président de la République, bien loin d'autres modèles qu'on peut trouver dans les pays limitrophes à la France, par exemple. Mais même Donald Trump aux États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République en France. Il y a une vraie différence entre nos régimes démocratiques. Et ça, c'est une question de long terme. Hein. Beaucoup réfléchissent au jour d'après, au monde de demain. Il ne faudra pas oublier de se poser la question de est-ce qu'on peut avoir une vraie démocratie qui permet d'accompagner ces crises, ou est-ce qu'à chaque fois, on est obligé de tout réduire et de tout confier à un petit groupe tel que ça a été dans le cadre de cette crise sanitaire.
Oui, donc ça, ce serait la plus grosse critique que vous auriez à faire sur la gestion de cette crise par rapport à ce qu'a pu faire le gouvernement.
Oui, moi j'ai voté contre non pas le plan de déconfinement. J'avais des remarques à faire, etc. Mais j'ai voté contre la méthode. Est-ce que nous, observateurs français d'un autre pays, nous ne critiquerions pas un gouvernement qui, à 15 heures, présente un plan? On n'en discute même pas du plan. Hein.
Oui, justement, je voulais savoir.
On a une discussion générale, et puis à 19 heures, il faut voter sans qu'on puisse changer une demi-virgule.
Oui, c'était presque comme quand le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, c'est ça ?
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Stanislas Guérini, le patron de l'AREM, hein. Il a dit c'est un vote de confiance sur le gouvernement.
C'est ça.
Moi, je ne suis pas venu pour faire un vote de confiance sur le gouvernement, je suis venu pour partager, pour expliciter des particularités que je porte par mon histoire, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient notamment sur le sujet que j'ai initié au début de la crise, les sans-papiers, hein, ces personnes, 300-400 000 personnes qui sont sur notre sol et qui se retrouvent dans des situations impossibles, et le plan de déconfinement n'en tient pas compte. Le PJL de prolongation de la loi d'urgence sanitaire n'a pas d'éléments à la hauteur de ce sujet. On laisse 400 000 personnes dans un entre-deux et ce n'est pas supportable. On n'a même pas eu de débat là-dessus.
Qu'est-ce qui est ressorti du texte concernant les sans-papiers ? Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été adoptées ou rien ?
Les dispositions, elles sont techniques. C'est-à-dire que ceux qui risquent de devenir des sans-papiers, l'administration prolonge leur situation. Par exemple, les travailleurs saisonniers, on va le voter après-demain, disons cet après-midi en commission et après-demain dans l'hémicycle, verront prolonger de 6 mois à 1 an leur contrat leur permettant d'être travailleurs saisonniers et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle être les sans-papiers. Mais d'autres choses ont été mises en œuvre, mais Ça, c'est pour éviter qu'on passe de, qu'on en rajoute des personnes qui sont dans une situation d'irrégularité administrative. Mais ceux qui le sont déjà, pour mille et une raisons, très souvent, ce sont des raisons administratives et pas des raisons, j'allais dire, d'entrée illégale dans le pays. Hein. Ce sont des étudiants qui sont restés, ce sont des parents, des enfants, ce sont des travailleurs qui ont perdu... qui n'ont pas renouvelé leur carte et pourtant ils vont ramasser nos poubelles parce que souvent ce sont plutôt ce type d'emploi, hein, ramasser nos poubelles, garder des immeubles, etc., etc., garder nos biens quand nous tous nous étions confinés, ben, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur pour cela. Et ben, une partie de ceux-là ont un contrat de travail mais n'ont pas un statut qui les autorise à être en France, donc ils sont considérés comme sans papier et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et c'est ça que nous regrettons. En 3 minutes, j'en ai plus parlé avec vous qu'en en 2 mois dans l'hémicycle, parce que le système démocratique français ne nous a pas laissé la place de discuter. Moi, j'ai ma position, mais je respecte celle d'autres qui pourraient dire, d'une manière ou d'une autre, il y a des réponses, c'est pas le sujet, c'est pas notre vision politique. Ok. Mais même pas pu débattre, même pas pu apporter des arguments, hormis à travers des relais de la presse ou comme vous à l'instant.
Oui, absolument. Il n'y a pas eu, typiquement, je voulais qu'on revienne là-dessus, sur cette question du débat dans l'hémicycle. Vous y étiez, vous, ce week-end, pour discuter du projet de loi ou pas?
Non.
Vous étiez sur place.
Comme toujours dans cette période, c'est limité en nombre de parlementaires. Donc, ce sont plutôt mes collègues du groupe Liberté et Territoires qui sont de la commission des lois, qui ont assuré les débats. Moi, je serai mercredi, jeudi, vendredi, dans le cadre de la loi d'habilitation par ordonnance, on appelle ça la loi fourre-tout, où beaucoup de choses sont inscrites dans énormément de domaines. Nous allons essayer d'y apporter également des amendements, travailler sur, je le redis, sur la question des sans-papiers. La construction de la loi, et j'en profite parce que c'est quand même le sujet de votre média, la construction de la loi, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec des initiatives, mais on doit respecter un cadre. Et parfois, on ne peut pas aller jusqu'au débat parce que ça ne rentre pas dans le cadre, parce que ça peut être mal rédigé. Hein.
Aussi, donc, bien sûr, la logistique, bien sûr.
Là, je travaille derrière un écran, donc je ne suis pas habillé. Et j'espère que les auditeurs toléreront que je ne suis même pas rasé ce matin. Parce que depuis ce matin, on travaille sur cette proposition de loi qui est arrivée cette nuit, qui est débattue tout à l'heure. Ouais. En commission, et j'avoue que je me suis concentré sur ça.
Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, vous tournez en fonction, vous êtes des représentants du groupe qui siègent pendant cette période de post-confinement.
Exactement. Donc, cette semaine, on va pouvoir monter pour mon groupe sur 20 députés, 5 sont autorisés à venir.
D'accord.
La semaine dernière, c'était 3. Voilà, cette semaine, je ferai partie des 5 du groupe Liberté et Territoires qui seront dans l'hémicycle. La semaine prochaine, je ne viendrai pas puisque ça permettra à d'autres d'être présents.
Ouais. On va, si ça ne vous dérange pas, on va parler de vous un peu. Mais tout en
parlant. Si, ça me dérange, mais bon.
Pardon ?
Allez-y, allez-y.
Tout en parlant, bien sûr, de votre mandat de député, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais. J'aurais aimé que vous nous parliez un peu de vous, de votre parcours, de ce que vous avez fait auparavant, avant de devenir député. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas votre premier mandat à l'Assemblée nationale.
Je suis député depuis juin 2012 et je suis engagé en politique depuis 1992, donc ça va faire 28 ans, plus que l'âge de mon fils aîné, donc avant même d'être père. J'étais déjà engagé en politique, déjà intéressé à la chose des adolescents. Je me suis engagé chez les écologistes, Génération Écologie, qui était un parti initié par un ministre de François Mitterrand, Brice Lalonde, et une étoile montante de la droite, Jean-Louis Borloo. et une personnalité de la société civile, le présentateur de télévision à l'époque, Noël Mamère, qui souhaitait créer une dynamique autour de l'écologie comme moteur de transformation de la société. Malheureusement, différentes vicissitudes classiques à la politique a fait que Génération Écologie a quasiment disparu. Mmh. Et je suis rentré en accompagnant Noël Mamère chez Les Verts dans les années, fin des années 90. Et j'ai été élu député dans le cadre de l'accord Europe Écologie Les Verts avec le Parti Socialiste en 2012.
D'accord. Donc du coup, vous avez quand même un peu de recul. Vous pouvez certainement pointer du doigt les différences entre l'ancienne législature et la législature actuelle. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Vous étiez dans la précédente législature, vous étiez un député de la majorité, assimilé à la majorité. Là, vous êtes plus dans l'opposition, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous ?
Alors, d'abord, être honnête jusqu'au bout, j'ai accompagné Emmanuel Macron dans sa campagne sur les présidentielles parce que ce dépassement que j'avais connu à Génération Écologie m'intéressait beaucoup. Nicolas Hulot et d'autres s'étaient rapprochés, Corinne Lepage s'était rapprochée de Noël Mamère, d'Emmanuel Macron et de En Marche. Donc je n'ai pas eu de candidat contre moi lors des législatives, ce qui m'a permis d'être réélu, mais malheureusement, je le dis très clairement, la démocratie, c'est la capacité à confronter ses idées et à accepter le débat. Et du débat, moi, j'ai pas de difficulté à ne pas gagner un débat, j'ai des difficultés à ne pas pouvoir l'initier. Et malheureusement, La République En Marche a démontré plutôt une tendance à ne pas accepter le débat, à essayer d'être le petit doigt sur la couture. Il ne peut pas y avoir de différence entre les 300 membres. J'estimais qu'au contraire, c'était la notre richesse était nos différences, et nos différences devaient trouver des cadres de débat, de co-construction. Donc, première difficulté avec le système de La République En Marche, et puis sur l'écologie, j'ai vu qu'on n'avançait pas. L'urgence, le mur approche, et on n'est que sur des petits pas, que sur des symboliques, et non sur une capacité à transformer en profondeur. Donc, le départ de Nicolas Hulot a accéléré mon départ avec d'autres députés pour créer le groupe Liberté et Territoire, qui d'ailleurs est un groupe qui correspond à mon idée. Je me suis retrouvé à Liberté et Territoire avec notamment Charles de Courson, que beaucoup connaissent, que j'ai combattu d'un point de vue politique, s'entend, dans l'hémicycle pendant de 2012 à 2017. Peut-être justement trop engoncé dans mes certitudes, lui aussi dans les siennes. Et aujourd'hui, Charles et moi, on a un dialogue, et parfois, ça étonne les uns et les autres. Ils disent, tiens, Charles, t'es devenu écolo, ou tiens, François-Michel, tu prends plus en compte les questions budgétaires, fiscales, la réalité. Eh bien, parce que j'écoute Charles dans un groupe partagé, parce que Charles m'écoute. Et on est très souvent ensemble pour des votes communs. Parfois, parce que c'est la liberté du groupe, on a des votes qui ne sont pas les mêmes. Mais je pense que depuis octobre 2018, je me suis enrichi comme jamais dans ce groupe Liberté et Territoire. La différence des autres...
Vous avez quitté la République En Marche en...
J'ai quitté La République En Marche, oui.
En octobre 2018. D'accord.
Et je suis rentré dans ce groupe.
D'accord.
Je prends quand même un temps. C'est souffrance hein, de se retrouver avec des gens qui n'ont pas la même approche que vous et avec qui on doit partager. C'est d'un enrichissement fort. C'est une souffrance, mais c'est un enrichissement aussi.
Bien sûr. Qui est le président du groupe actuellement Liberté et Territoire ?
Alors, l'idée est d'éviter de mettre sur un piédestal un président.
D'accord.
Donc, on a deux coprésidents qui sont Bertrand Pancher et Philippe Vigier. C'est ce que nous avions fait aussi dans le groupe écologiste 2012-2017. Nous avions deux coprésidents, une coprésidente Barbara Pompili et un coprésident François de Rugy.
qu'est-ce qui vous frappe le plus? Alors, on en a un tout petit peu parlé, mais vraiment quelque chose de particulièrement frappant chez, pour vous dans l'exercice du pouvoir actuel. Hormis, si ce n'est, si je l'ai bien compris, l'omniprésence du président, cette espèce de centralisation du pouvoir au profit de lui et de ceux qui les entourent, vraisemblablement. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'exercice du pouvoir actuellement par rapport à ce que vous avez connu auparavant?
J'ai une image qui... On est sur Instagram, donc on peut tout oser sur Instagram. j'ai une image, c'est la France, c'est, Général de Gaulle avait dit, la France, ce pays aux 260 fromages, aujourd'hui c'est plus de 1000 fromages. Bon bref, tous ces fromages qui représentent un territoire, ces différences, le Marois, la Cancoyotte, le Roquefort, le Crottin de Chavignol, le Saint-Nectaire, bon moi je ne réciterai pas tous, hein.
Non, sont tous différents.
Oui. Exactement, mais ils sont tous une fierté locale et tous une différence, hein, des fromages forts, des fromages à pâte molle, etc., etc. Donc dans ce pays aux 400 fromages, malheureusement, La République En Marche, c'est un peu comme le carré frais Gervais, ce fromage industriel au milieu du plateau et qui essaye d'expliquer aux autres comment il faut fonctionner. J'ai rien contre le carré frais Gervais, j'en mange aussi. Mais ce n'est pas, c'est pas l'alpha et l'oméga des fromages français. Mais de la même façon, La République En Marche, beaucoup trop formatée sur un même modèle, sur les mêmes approches comportementales, je suis sur le comportement, hein, les mêmes mots, ne peut pas être en résonance avec notre pays et ses différences, ma circonscription. La circonscription dont on n'a pas parlé, hein, qui est celle, la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui est située entre Aix et Marseille, c'est la pièce qui fait la jonction entre Aix-en-Provence et Marseille, elle a deux équilibres. Un bassin minier et industriel historique, qui a plus de 200 ans, on retrouve un peu les mêmes habitats et la même culture que dans le nord de la France ou l'est de la France, hein, ceux qui viennent. Bon, on a le soleil et la chaleur en plus, hein, et les platanes, mais on a exactement les mêmes urbanismes et les mêmes solidarités. Et le sud, c'est les collines de Pagnol. Tous ceux qui ont lu les histoires de Pagnol, vous venez, vous retrouvez cette résonance de ce que vous avez pu lire. Comment voulez-vous qu'il se retrouve dans une République En Marche qui ne met en avant que des personnes formatées de la même façon? J'ai lu un article qu'on m'a fait passer sur Olivier Véran, que j'apprécie énormément, mais je ne sais pas qui lui a dit d'aller prendre les mêmes costumes que le président de la République chez le même couturier avec la même coupe. Pourquoi donc Olivier Véran, qui est député de l'Isère, qui a son histoire, sa particularité, qui est très riche d'ailleurs, je vous invite à chacun à regarder l'histoire d'Olivier, elle est passionnante, hein, comment il s'est enrichi lui-même avec ses parents, eh bien on l'amène à avoir les mêmes costumes, les mêmes cravates, la même chemise, la même tenue physique, vestimentaire que le président de la République. Forcément que ça ne crée pas de résonance, ça ne crée pas de résonance dans les territoires. La France, elle est extraordinaire. C'est le pays le plus brassé, le plus riche, brassé des hommes et des femmes, mais brassé aussi des territoires, des histoires, des ruptures en 10 ou 30 kilomètres. Ma circonscription, c'est à peu près 50 kilomètres du nord au sud, à peine. Mais il y a des ruptures de bassins de vie totalement différents que l'on doit conserver, que l'on doit comprendre et que l'on doit relayer à l'Assemblée nationale. Et donc, je suis assez fier de me présenter devant vous, non pas avec le costume de chez le tailleur du président de la République, mais avec mes cheveux un peu en vrac et un pull.
Je vois bien le côté un peu aseptisé que vous essayez de mettre en avant. C'est assez intéressant, effectivement. Il y a une certaine... un mimétisme, mais surtout dans les éléments de langage, c'est assez surprenant. Moi, je vois régulièrement quand... moi, je suis énormément de députés, naturellement, sur Twitter. Et parfois, j'en vois un qui sort un élément de langage en particulier. Et 3 minutes après, ils ont tous le même élément de langage. C'est assez surprenant, quoi. Il y a vraiment des copier-coller presque qui se font.
Ça marche un temps, mais au bout d'un moment, ouais. Ça ne marche plus. Pardon, je vous coupe, mais l'éducation d'aujourd'hui, la forme éducative dont on dit devoir s'inspirer, celle du nord de l'Europe, est celle qui laisse la différence s'exprimer des enfants. Et les enfants, et malheureusement, à la tête du pays, c'est l'inverse. On ne laisse pas les différences s'exprimer. On devrait s'inspirer de ce que l'on veut mettre en place dans le système éducatif, et moi je le partage, que la différence des uns et des autres soit un enrichissement mutuel plutôt que la verticalité du professeur, hein, de la maîtresse d'école qui récite son savoir, du professeur de je ne sais quelle science qui récite son savoir, et les enfants ne font que recevoir sans co-construire. Non, aujourd'hui, l'éducation, c'est la co-construction. C'est ce qu'on porte depuis plusieurs années et c'est ce que tout le monde dit qu'il faut faire. Eh bien, au niveau du pays, nous devons aussi être dans cette co-construction. Nous ne pouvons pas être dans une verticalité.
Est-ce qu'on peut imaginer, j'ai le sentiment que c'est un peu ça, vous devez certainement avoir plus d'informations à cet égard que moi, il y a quand même pas mal de députés de La République En Marche qui sont un peu mécontents avec ce qui est en train de se passer actuellement et qui pourraient quitter le groupe, peut-être, à très court terme.
Déjà, ils sont nombreux. Hein. Moi, le premier, je l'ai quitté. Je n'ai pas été le premier, mais dans les premiers à avoir quitté. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment, c'est fabuleux ce qu'a initié Emmanuel Macron, sans critiquer du tout ceux qui ont un parcours politique, parce que ce n'est pas à critiquer. Mais il y a eu un renouvellement, il y a eu une féminisation importante. Il y a eu quand même un certain resserrement quand même sur les parcours des uns et des autres, mais chacun et chacune arrive avec son histoire. Et au sein de La République En Marche, les débats sont très restreints. Il y a une soixantaine de députés qui peuvent faire valoir leur approche, leurs idées et créer du débat, et il y en a 240 qui sont là ou qui prennent des sujets connexes, mais qui ne peuvent pas révéler ce qu'ils sont, leur histoire familiale, leur histoire personnelle, leur construction. Et donc, forcément, ils se posent des questions et voudraient trouver d'autres lieux d'expression. C'est pour ça que le groupe Liberté et Territoire est assez attractif, hein, car parfois, je peux vous dire, c'est une sorte de fâcherie à la Astérix hein, et Obélix hein, qu'on a au sein du groupe Liberté et Territoire. Mais il y a toujours le banquet derrière. Il y a toujours le fait qu'on reste ensemble, même si à un moment donné, on a pu se fâcher sur un sujet ou sur un autre, on sait se retrouver. Je crois que ces fâcheries sont nécessaires hein, si oui. Il y a le respect des uns et des autres.
Alors, pour revenir un peu sur votre parcours, vous parliez des parcours des uns et des autres, et du coup, ça me fait une parfaite transition, merci. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver à l'Assemblée nationale, hormis le côté politique que vous nous avez déjà décrit tout à l'heure, que vous avez rejoint Génération Écologie, etc. Qu'est-ce que vous faisiez avant juin 2012, avant de déposer vos bagages à l'Assemblée, vos valises à l'Assemblée?
Alors, mon parcours professionnel, moi j'ai un diplôme, un bac plus 2 en génie mécanique option soudure. Déjà un peu éloigné du champ de la politique et une spécialisation ensuite sur la question des emballages. Je suis entré dans le groupe Pernod Ricard pour une quinzaine d'années autour d'abord de l'expertise emballage pour accompagner le groupe dans une transformation, pour répondre notamment à la mise en place d'éco-emballages, hein, les exigences de tri des emballages. Puis la deuxième partie de ma vie professionnelle chez Pernod Ricard a été sur la logistique et notamment le pilotage des flux logistiques Sud-France pour la partie Pernod. Et j'ai repris mes études en logistique où je suis resté au centre de recherche en transport et logistique de l'université d'Aix-Marseille et où moi, j'ai pas vraiment enseigné, j'ai plutôt participé à beaucoup de travaux sur la prospective, sur les transformations de notre territoire, sur les transformations de notre pays à 10, 20, 40 ans, comment réorganiser les de notre pays et même à l'étranger, j'avais des missions à l'étranger, comment organiser les flux de marchandises à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie. Et c'est là que j'étais au moment où j'ai été élu. J'étais dans cette mission.
Ce qui explique que vous êtes donc président d'Institut d'économie circulaire.
Alors, effectivement, merci de le rappeler. Arrivé à l'Assemblée nationale, cette expérience de la question de l'organisation des territoires sur les matières premières disponibles, sur les ressources, j'avais des missions en France et à l'étranger, donc en Amérique du Sud parfois, on n'a pas les mêmes ressources disponibles, on n'a pas les mêmes attentes non plus des citoyens, les mêmes modes de développement. Donc il faut trouver des systèmes d'adaptation et ma dimension écologique rajoutée de ne pas gaspiller les matières premières. Donc l'économie circulaire, hein, l'institut que j'ai fondé en 2013, 250 membres, des entreprises, des collectivités, des universités, des chercheurs, des ONG, 9 salariés. Nous sommes la référence effectivement en France sur la question de l'économie circulaire qui n'est pas le recyclage, qui est bien plus que le recyclage, puisque l'approche de l'économie circulaire, c'est de retrouver un modèle de développement en équilibre avec les limites de notre planète. Notre planète, elle navigue dans l'océan, dans l'univers, avec un stock de matières premières qui ne bougera pas. Il n'y a pas une deuxième planète qui va venir se garer à côté de la nôtre. Il n'y a pas un navire ravitailleur comme si nous étions dans l'océan. Nous sommes vraiment tout seuls avec les ressources que nous avons. Tant que nous étions quelques 2-3 milliards et 500 millions dans un mode de développement comme les Occidentaux nous connaissons, le stock était suffisant. Nous serons 10 milliards d'habitants en 2050. Nous serons 6 à 7 milliards à consommer, à avoir des classes sociales comme les Occidentaux. Si le mode de consommation de ces classes sociales est équivalent à ce que nous venons de faire ces 50 dernières années, nous en Europe, eh bien le stock de matières premières n'est pas suffisant, puisqu'il n'y a pas d'autres navires, d'autres planètes qui vont venir. Donc s'il n'y a pas suffisamment de matières premières pour satisfaire le modèle de développement, eh bien on va à la pénurie. La pénurie, c'est la guerre. Et ça, on commence déjà à avoir des guerres économiques. Hein. La Chine s'implante de plus en plus, notamment en Afrique, met en place des systèmes, on peut appeler la route de la soie, ce qui s'appelle plus exactement Belt, en acronyme anglais, Belt qui veut dire ceinture, hein, donc la route de la soie ça fait gentil, mais ceinture c'est la Chine, met en place un système pour rapatrier vers elle les ressources, les matières premières d'autres continents. Aujourd'hui on arrive encore, nous occidentaux, européens, à accéder à ces matières premières, mais un jour le stock ne sera plus là et c'est le plus fort qui gagnera. Le plus fort, ça peut être économique, guerre économique, ou ça peut être une guerre armée. Et donc l'économie circulaire, c'est retrouvons notre équilibre en lien avec les limites de notre planète en termes de modèle de développement. Et malheureusement, dans l'opinion publique, médiatique, très souvent, trop souvent, on pense que c'est le recyclage. Si ce n'était que recycler, recycler le cuivre, c'est un cycle de 40 ans pour recycler le cuivre. Recycler le cuivre que nos parents, grands-parents ont mis en œuvre il y a 40 ans, dans différents usages, ne couvre que 30% des besoins d'aujourd'hui. Donc il faut taper 70% du stock de la planète. Donc le recyclage ne fait que reculer le moment où on manquera de ressources dans une guerre entre le monde occidental, Amérique d'un côté, Europe de l'autre, et la Chine et l'Inde, les deux autres grands pays. Et à ce moment-là, c'est le plus puissant qui gardera le stock et les autres verront un ralentissement, à moins que, et c'est ce sur quoi nous travaillons au niveau européen, à moins d'inventer d'autres modèles où on utilise beaucoup mieux les ressources, on ne les gaspille pas. Voilà.
Ouais. En tant que député, quels sont vos principaux combats pendant, ce mandat actuel, pendant votre mandat actuel?
Il y a une continuité, on ne peut pas dire que nos principaux combats. L'une des réussites, c'est d'avoir enfin inscrit dans notre code civil que la France, comme mode d'éducation des enfants, une abolition de toute violence, qu'elle soit physique ou psychique. Ouais, nous sommes le 52e pays au monde à le faire. Il y a 200 pays au monde, donc on n'est même pas dans le premier quart des pays. Il y a 50 pays avant nous qui l'ont fait, qui ont inscrit dans leur code civil que la violence éducative se fait en dehors de toute violence. Mmh. Donc ça, c'était une continuité. Après, les enjeux majeurs, je suis essentiellement sur deux, évidemment sur l'économie circulaire et la loi que nous venons de faire fin d'année, début 2020, malheureusement, est passée à côté du sujet. C'est une loi de la pollution, on explique comment on va récupérer les déchets plastiques, comment on va récupérer les déchets du BTP qui sont en forêt, les bâtiments qui sont en forêt, mais sur lesquels on ne fait aucun lien avec les limites de notre planète. On ne dit pas il faut consommer moins de plastique, on ne trouve pas les moyens pour consommer moins de matières premières. Donc ça, c'est un des grands enjeux. La deuxième axe, c'est sur la logistique, puisque c'est une expertise. On l'a vu, la grande défaillance dans la gestion de la crise, c'est que la France n'a pas d'expertise au niveau gouvernemental logistique. Nous avons fait appel aux moyens privés, mais on n'est pas à la hauteur. Des pays comme l'Allemagne ou le Maroc, pour ne pas toujours citer l'Allemagne, pour eux, c'est stratégique, c'est piloté depuis le gouvernement. C'est avec un ministre qui a la fonction de la logistique, qui organise les systèmes. Et la logistique, permettez-moi de le préciser, hein, ce n'est pas que transporter d'un point A à un point B. Ça, c'est le transport. La logistique, c'est penser la chaîne globale, depuis la matière première jusqu'à la distribution finale. Par exemple, depuis le grain de blé jusqu'au biscuit qui arrive sur votre table. Depuis le cuivre, les mines de cuivre, jusqu'à votre voiture ou vos objets qui contiennent du cuivre. Comment on organise tout ceci? Et donc l'Allemagne, depuis 2004, a un plan stratégique en la matière. On a fait un atout pour son économie, notamment l'industrie lourde, mais aussi sur l'ensemble de son industrie. Le Maroc également, et d'ailleurs, ces deux pays ont eu des réponses bien meilleures que nous dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, tant pour avoir des masques, pour organiser le système, que ce que nous avons pu faire.
Bien sûr. Ouais. Donc pour vous, il y avait quand même un gros problème logistique par rapport aux masques en France. Il y a eu un gros problème de logistique, c'est ça?
Oui, mais pas que les masques. Un problème de compréhension, comment on fait? C'est la question que j'ai posée dans l'hémicycle dès le 24 mars. Olivier Véran dit il n'y a pas de problème. Mais quelques semaines plus tard, il dit on a un problème logistique. J'ai demandé que le gouvernement se dote en urgence d'un expert logistique auprès du ministre de la Santé ou du Premier ministre. Le redémarrage de notre économie, de la même façon, va manquer de cette expertise. On parle de souveraineté, il faut relocaliser une économie, mais il va bien falloir organiser les systèmes. Et la logistique, c'est la science de l'organisation des systèmes. La définition que je porte sur la logistique, c'est le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'informations. Donc, c'est bien trois flux pas que les flux physiques. C'est, on a bien vu que la France, elle s'est fait avoir parce qu'elle n'a pas su gérer les flux financiers. Elle avait ou des règles administratives trop lourdes, ou elle ne savait pas payer en temps et en heure et les avions étaient détournés vers d'autres pays qui payaient directement. Elle n'avait pas les informations auprès de qui il faut acheter, comment il faut acheter, comment on redistribue. On voit aujourd'hui qu'on a encore des problèmes de distribution de ces masques parce qu'il n'y a pas cette science au cœur de l'exécutif. Et donc, c'est ce que je vais ouvrir dès à présent.
D'accord.
Et sur les 18 prochains mois, cette question de la logistique doit devenir un élément structurant de souveraineté nationale.
Ouais, c'est intéressant. Comme, je me permets de faire une petite pause dans votre discours pour vous dire qu'il y a énormément de messages, de remerciements pour ce que vous faites pour les sans-papiers.
Oui,
il y a beaucoup de gens qui envoient des messages pour vous remercier de votre action.
C'est toujours agréable de recevoir des messages tels que cela, mais il faut que je continue, nous sommes beaucoup à continuer, à réussir sur ce point. Sur ce point, on va en discuter en toute transparence. D'abord, le virus ne fait pas de différence sur l'origine, ne fait pas de différence sur la situation administrative de chaque individu. Il ne sait pas ce que c'est qu'une personne en situation régulière et une personne en situation irrégulière. Par contre, notre système, lui, ne donne pas les mêmes moyens de prévention et de soins si vous êtes en situation régulière et en situation irrégulière. Donc déjà, on n'a pas une réponse adaptée. D'ailleurs, l'OMS et le Haut Commissariat aux réfugiés le disent très clairement, dans des termes un peu plus administratifs, mais plus politiques, mais ils disent très clairement, la question, elle est humaine, elle n'est pas administrative. Donc, nous devons mettre les individus au même niveau de réponse. Puis après, au-delà de la pandémie, la grande question que nous avons, c'est qui peut croire que les 300 ou 400 000 personnes présentes sur notre territoire national, ça va être notre priorité de les renvoyer par différents moyens dans d'autres pays, leur pays d'origine ou d'autres. On a à rebâtir un pays, on a même à rebâtir un modèle. On parle de réindustrialisation, assorti de chaque guerre. Heureusement, nous ne sommes pas en guerre là, mais on peut faire un petit comparatif. La France n'a pu repartir de l'avant que par l'apport de personnes qui étaient extérieures à la France. Au sortir de la guerre de 14-18, au sortir de la guerre de 45, au sortir de la guerre d'Algérie. Et alors c'est un peu différent, c'était des Français, mais qui étaient sur un autre continent, qui sont venus essentiellement. Il y avait aussi des Algériens qui sont venus, notamment Kabyle, qui sont venus en 62 et participer aux 30 Glorieuses. On parle de relocaliser une industrie extrêmement manuelle. Regardons les choses en face. La structuration de la formation en France n'est pas forcément à la hauteur de ce sujet, que ce soit d'un point de vue agricole, maraîcher, ou dans une petite industrie, sans être du tout péjoratif, bien au contraire, avec une admiration. Oui, il faut beaucoup de mains et de savoir-faire. Une très grande partie des personnes qui sont en situation de sans-papiers ont ce savoir-faire. Mais il y a aussi, et je ne l'oublie pas, et je veux le dire très clairement, une autre partie notable sont des personnes qui ont des niveaux de formation et de compétences, de sciences élevés. Et il n'y a pas à faire de discrimination de quelles que soient vos compétences, il y a juste à comprendre qu'on aura besoin de peut-être un peu moins de parlotte et un peu plus d'action manuelle ou d'action de science.
Il y a un député de votre groupe, si je ne me trompe pas, Jean-Michel Clément, qui avait posé une question au gouvernement il y a au tout début de la crise. Non, pas tout à fait au début de la crise. juste avant le confinement, de mémoire, qui avait posé une question au gouvernement en demandant si l'aide médicale d'État allait pouvoir être accessible sans condition
de délai. C'était un courrier que j'ai co-signé, effectivement, mm-hmm. parce que depuis le 31 décembre de 2019, mm-hmm. La République En Marche et le gouvernement ont souhaité mettre un délai de 3 mois entre l'arrivée sur le sol national et la possibilité d'accès à l'aide médicale étrangère. D'État, pardon. Ouais. Ça n'avait pas de sens. Il fallait que tout le monde puisse accéder, surtout que l'on sait que 50%, pardon, je cherche le chiffre, que 50% seulement de ceux qui ont droit à l'AME, l'aide médicale de l'État, ils font appel. Donc déjà, quand c'était immédiat, qu'il n'y avait pas de délai de carence, seuls 50% ils faisaient appel, alors avec un délai de carence, on risquait de tomber. Alors que je reviens sur le fait que le virus, lui, il n'a pas d'administratif. Le virus, il est biologique, il fonctionne à la biologie, pas à l'administratif.
Donc, puis quand on est malade, on ne peut pas attendre 3 mois souvent.
Voilà, alors il y a tout ça, il y a la crainte. Je pense que c'est un des points très noirs de la gestion de cette crise parce que ce gouvernement a manqué de courage, je le dis très clairement, pour prendre la décision qui devait être prise, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers. Il a cru que ça mettrait le feu dans le pays. C'est ceux qui ont déjà des postures de cet ordre seraient restés sur ces postures, mais tous les autres auraient saisi que je reviens et je redis que le virus, c'est un virus biologique, c'est pas un virus administratif. Donc, le sens même du geste de la solidarité humaine devait être à mettre en œuvre, mais aussi la gestion d'une pandémie face à un virus qui ne comprend pas l'administratif. On ne peut pas lui dire au virus, permettez-moi d'être un peu simpliste, hein, mais vous ne pouvez pas dire au virus, ah non, mais là, tu vois, lui, il n'a pas de papier, donc tu n'y vas pas. Évidemment qu'il tape tout le monde. Et la réponse, elle ne doit pas être administrative, elle doit être liée à la réalité physique. La réalité physique, c'est la biologie.
Non, c'est certain. Donc le gouvernement n'est pas revenu sur ce délai de carence de 3 mois.
Non.
Et même de manière exceptionnelle.
Non, il a prolongé ceux qui étaient déjà en situation de papier, de détention de papier, il leur a prolongé pour pas qu'ils deviennent des sans-papiers. Mais ceux qui sont sans papier, ils n'existent pas. Et ça, c'est encore pire. Dire non, mais vous n'existez pas, même pas on en parle de 300 à 400 000 personnes, l'équivalent de la 4e ou 5e ville de France, Nice ou Toulon. Non, on n'en parle pas.
C'est sûr que c'est quelque chose de grave ici, mais il n'y a aucune mesure d'urgence qui ont été envisagées. Qu'est-ce que vous proposiez, vous, concrètement, hormis la régularisation? Est-ce que vous
La régularisation et des moyens. La régularisation débloquait beaucoup de choses.
Bien sûr.
Rassurait, permettait à une grande partie des personnes qui se retrouvaient rassurées de pouvoir sortir avec leur fiche dérogatoire, leur attestation dérogatoire, d'aller faire leurs courses, d'aller soigner, de se montrer. Donc, c'était 80% de la question était. Déjà en partie réglé. L'autre, c'est le manque d'aide de façon plus globale aux associations qui interviennent auprès des publics en grande difficulté, notamment économique et sociale, qu'elles soient, que ce public, ce soit des personnes en situation régulière ou irrégulière. On a débloqué de mémoire 5 millions d'euros. Voilà.
Oui, par rapport à ce qu'on a donné à Air France, c'est pas grand-chose.
Ce qu'on a prêté à Air France, oui, effectivement, par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres choses, et puis par rapport surtout à l'État a creusé son déficit de 110 milliards d'euros.
Bien sûr.
On aurait pu faire 110,5 milliards, c'est-à-dire 500 millions d'euros pour les personnes en très grande difficulté n'auraient pas... n'aurait rien enlevé au déficit public national, mais aurait changé tout pour des millions de personnes, parce que ce ne sont pas que les personnes sans papier qui sont concernées, c'est vraiment des millions de personnes. Et ça, je crois que c'est la grande rupture dans la gestion de cette crise que nous pouvons constater, idéologique. Elle s'est ancrée dans certaines droites, parce que j'ai un respect pour les gens, quel que soit leur engagement, mais dans une certaine droite, celle qui est le compteur bloqué, les yeux braqués sur le compteur de la dette, alors qu'on a une autre partie de la droite, la gauche, qui regarde quand même le sens politique, c'est moins les chiffres comptables que les femmes et les hommes qui sont sur notre territoire et au-delà.
Bien sûr, il y avait un commentaire dans le chat qui disait que les attestations qui vont être mises en œuvre pour pouvoir prendre les transports en Île-de-France vont certainement empêcher beaucoup de sans-papiers de se retrouver, de pouvoir se rendre à leur travail. Donc,
je n'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est très
probable qu'ils sont beaucoup, enfin, qui sont toujours en difficulté, en fait.
C'est très probable, très très probable. Je n'ai pas eu le temps de regarder hein, cette particularité.
Mais ça
pose question.
Donc, de fait.
L'idéologie, quelle qu'elle soit, est toujours un frein au progrès. Je dirais, il n'y a qu'une seule idéologie qu'on peut avoir, c'est celle de l'amour de l'autre, de croire au partage commun, qu'on ne détient pas des vérités, et d'être dans le doute, mais le doute constructif, de partager. Voilà, c'est la seule. Tout le reste, c'est plus des sites certitudes qui bloquent beaucoup de choses.
Oui, du dogmatisme en quelque sorte.
Ça peut basculer dans le dogmatisme. Hein.
Oui, un positionnement très fort. Est-ce que vous pensez que, peut-être pas à court terme, puisque vraisemblablement on voit que les choses ne bougent pas, mais peut-être à moyen terme, le gouvernement pourrait revenir sur cette question et assouplir en tout cas les conditions pour attribuer des papiers à ceux qui n'en ont pas? Si ce n'est, je ne pense pas, et je pense que vous allez partager mon avis, je n'y crois pas. Je ne pense pas que le gouvernement va faire une régularisation massive. J'en doute, peut-être, mais j'en doute. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un espoir
Oui, moi je pense qu'il y a
un assouplissement.
Je pense, oui, moi je pense que malheureusement, le système démocratique français, c'est un homme, pas encore une femme. Hein. Pour l'instant, on n'a eu que des hommes présidents de la République. Et que Emmanuel Macron peut comprendre à un moment donné, mais il faut réussir à trouver l'instant, le moment où il se dit oui, j'ai le courage, quel courage d'ailleurs, je décide de cette régularisation massive. Sans condition des personnes qui sont présentes sur le sol français, qui n'ont pas les papiers ad hoc. Oui,
bien sûr, qui
permettent ça. Et ça soulagera énormément de choses organisationnelles. Ça chargera mentalement, certains diront « Waouh, l'horreur, on est envahi !» Peut-être, mais eux, je leur laisse leur charge mentale. Mais notre administration, notre quotidien, nos forces de l'ordre, nos employeurs, etc. Je parle de tous ceux qui sont honnêtes, hein, il y a certains qui profitent du désarroi de ces personnes, mais tous ceux qui sont dans l'honnêteté arrêteront de perdre de l'énergie, du temps pour contrer des personnes, pour bloquer des personnes qui, de toute façon, on ferait mieux de les intégrer et d'avancer avec elles. Hein. Aujourd'hui, je pense que nous avons à orienter notre administration, nos forces de l'ordre, nos entrepreneurs vers la reconstruction d'une France, d'abord pour recréer la richesse, mais aussi pour retrouver la souveraineté dans toutes les dimensions que cela veut dire. D'ailleurs, cette souveraineté, elle n'est pas franco-française, elle est aussi inscrite au niveau européen.
Bien sûr. Bien, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Très riche, très intéressant. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on termine le live?
Toujours la question qu'on n'a pas préparée.
Je
fais de la poétique parce que je suis un éternel optimiste. Dans l'instant, je peux être parfois un peu inquiet, abattu, etc. Mais je suis très confiant sur l'avenir. Dans un an, dans 10 ans et même dans un siècle, que le monde, l'humanité aura. Sinon, on ne fait pas de politique. Moi, j'ai trois fils et déjà un petit-fils. Et j'ai confiance dans ce qu'ils auront à vivre dans les prochaines années. On se lève, on fait, on échange, et on dialogue et on garde le respect des uns et des autres. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, François-Michel Lambert. À bientôt et bon courage.
À bientôt, Léa.
Ces combats que vous allez mener, on va vous suivre, on va continuer à vous suivre. Vous êtes très actifs sur Twitter. Et donc, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, si vous voulez voir un peu comment les choses évoluent, n'hésitez pas à suivre le compte de monsieur François-Michel Lambert. Merci beaucoup.
Merci et bravo pour tout ce que vous faites.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
À bientôt.
Sans vous, ce serait pas possible. Au revoir. Merci.
Merci.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.